France Culture.
Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin dans Chrétien d'Orient sur France Culture, nous revoyons Jérusalem par le regard des pèlerins qui depuis des siècles parcourent la ville et parfois en ont écrit une relation de voyage qui nous permet des années après de nous imaginer la ville d'antan. Certains voyageurs sont heureux, béats, d'autres agacés et gênés par cette multitude croyante qui bien souvent ne respecte pas son prochain, ou si peu. Pour ce pèlerinage à rebours du présent, je suis avec Philippe Martin, professeur d'histoire des religions à l'université Lyon 2 et l'auteur d'un formidable recueil de 28 témoignages, des portraits de pèlerins qui nous présentent une histoire de Jérusalem sur le temps long, depuis le roi Salomon jusqu'au président égyptien Anwar el-Sadat, terminant par la conversion étonnante du chanteur Michel Delpech. Bonjour Philippe Martin.
Bonjour.
Vous êtes un spécialiste du fait religieux, plus particulièrement des dévotions dans le monde catholique. Vous avez écrit sur le diable, le monde du sacré, et je vois donc sur les chemins de Jérusalem comme une suite logique à vos travaux précédents. Une première question sur ce qui vous a conduit en Terre Sainte. Un sujet, me semble-t-il, qui fascine, mais peut tout autant rebuter, tant la charge émotionnelle qui y est attachée est forte.
Moi, ce qui m'a amené en Terre Sainte, c'est la vallée de la Meuse. Alors, ça peut paraître un peu curieux, mais il se trouve que, fut un temps, j'ai été en Lorraine, et on a découvert avec un collègue un manuscrit d'un moine, qui s'appelle Don Louvent, qui était parti à Jérusalem en 1530. On a été fascinés par ce texte, et du coup, eh bien, j'ai voulu refaire le voyage de Don Louvent. Et c'est ainsi que je suis arrivé à Jérusalem.
En quelle année était-ce à peu près ?
Il y a une vingtaine d'années. Et voilà, et puis depuis, ça m'a pas quitté. Et j'ai découvert surtout que le voyage à Jérusalem, c'était un voyage individuel. C'est-à-dire que chacun y apportait un peu ce qu'il voulait et repartait avec ce qu'il voulait. Du coup, l'idée, non pas de faire une histoire de la ville de Jérusalem, ça, il y en a beaucoup remarquables, je pourrais absolument pas faire la même chose, mais de redonner la parole à des gens pour montrer que finalement, chacun y apporte véritablement ce qu'il peut et repart avec ce qu'il veut. Et du coup, bah, on est parti depuis la fondation du premier temple jusqu'à nos jours. Et à chaque fois, il a fallu retrouver des gens qui avaient laissé un texte disant ce qu'ils pensaient, ce qu'ils avaient vécu. C'est-à-dire que la trentaine de personnages qui sont présents sont complètement incarnés. Alors certains détestent Jérusalem, c'est un cloaque, d'autres sont éberlués, d'autres maudissent les marchands, d'autres encore prient et ne peuvent plus quitter la ville. Et c'est finalement ces regards qui sur plus de 2000 ans, sur près de 3000 ans en quelque sorte, sont toujours les mêmes. On est là face à un lieu unique.
Une question sur la méthodologie, comment vous avez d'abord retrouvé ces sources et ensuite sélectionné ces textes ?
Alors, je suis parti de plusieurs a priori. Le premier a priori, c'est qu'il fallait absolument qu'il y ait des juifs, des chrétiens et des musulmans. La deuxième chose, c'est qu'il fallait qu'un certain nombre de moments clés soient présents à travers ces témoins. Moments clés, par exemple, la conquête de Jérusalem par les croisés, la conquête de Jérusalem par les musulmans, la guerre des six jours. Voilà. Donc, il fallait trouver ça. Et à partir de ce moment-là, il a fallu aller rechercher dans les sources, retrouver les gens. Alors, certains de ces personnages sont très connus, certaines de ces sources sont très connues, et puis d'autres sont des parfaits inconnus. Donc, ce qui fait un équilibre entre des rois, des généraux, puis de simples Pékins. Certains, on ne les connaît que par le récit qu'ils laissent de Jérusalem.
Le pèlerinage est une expérience, écrivez-vous, une expérience sensorielle totale. Ils sentent l'encens, la poussière, mais aussi le sacré, car il semble qu'il y ait une odeur. Ils touchent. Ici, la pierre semble être une cire où s'imprègne la légendaire. Jésus a laissé l'empreinte de son torse sur la colonne où il fut fouetté. Être à Jérusalem, c'est entrer dans une ville totalement sacrée. Dites-nous un petit peu sur cette notion de pèlerinage dont vous parlez et que vous avez étudié précédemment. En quoi le pèlerinage de Jérusalem est différent des autres pèlerinages ?
Le pèlerinage est une expérience de rupture. Je suis en rupture avec mon monde traditionnel, je suis en rupture avec le temps traditionnel, etc. Ce qui est particulier à Jérusalem, c'est d'abord qu'on va y retrouver toutes les confessions. C'est-à-dire que je vais à Lourdes, je rencontre des catholiques. Je vais à Aparecida, je rencontre que des catholiques. Je fais le Kumbh, je rencontre que des hindouistes. À Jérusalem, je rencontre tout le monde. Et c'est tout le monde se croise. D'autant plus qu'il y a un certain nombre de lieux où les trois confessions se retrouvent. Donc ça, ça fait le point unique. La deuxième chose qui est tout à fait fort à Jérusalem, c'est que c'est un lieu de création. C'est-à-dire que c'est là qu'a eu lieu l'alliance des hommes avec Dieu via Abraham. C'est là qu'a été construit le temple. C'est-à-dire que je remonte véritablement au fondement de la foi, de toutes les fois. En tout cas pour les religions abrahamiques. Si je vais à Lourdes, je remonte au 19e siècle, je remonte à une jeune fille qui a un miracle. Quand je vais à Jérusalem, je replonge véritablement dans ce qu'il y a de plus profond.
Parlez-nous de cette idée de pèlerinage, encore une fois, ce déplacement, cette volonté personnelle. Vous parlez d'arrachement, de rencontre et de réappropriation comme des éléments constitutifs de tout pèlerinage. Qu'est-ce qui provoque Jérusalem, bien entendu, c'est le pèlerinage, le grand pèlerinage. Mais qu'est-ce qui provoque finalement ce désir de partir, ce désir d'aller voir ?
C'est, comme vous le dites très bien, le désir d'aller voir. Je vais aller toucher et je vais aller voir. Donc du coup, bien, en effet, il y a un arrachement. Un arrachement, alors, moins vrai aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on prend l'avion, etc. Mais imaginez-vous, un pèlerin au XVIe siècle, c'est des semaines, des mois de voyage, avec tous les dangers, toutes les découvertes possibles. Mais même aujourd'hui, arriver à Jérusalem, c'est un labyrinthe. C'est un labyrinthe dans lequel il faut prendre le temps de comprendre, de dominer les choses et tout. Et puis, c'est un phénomène d'appropriation, parce que, bien évidemment, je vais avoir un parcours qui est un parcours donné par ma foi, par ma tradition, par le guide que je vais avoir. Mais à partir de là, je deviens totalement libre. La force du pèlerinage, c'est à la fois que je m'inscris dans un rituel qui est un rituel commun, pour un catholique, par exemple la messe, mais en même temps, j'ai une grande part d'autonomie. Est-ce que je vais embrasser la pierre de l'onction ? Est-ce que je vais me mettre à genoux devant le Golgotha ? Là, chacun est libre. Et c'est ces deux éléments qui font la force du pèlerinage, le communautaire et l'individuel.
Une première référence qui est absolument fascinante, en 384 de notre ère, une femme pèlerine, Égérie.
Alors, en effet, on a peu de femmes dans le livre parce que très peu ont laissé des choses. Et Égérie, c'est quelqu'un, mais comme beaucoup de ces pèlerins, tout à fait extraordinaire parce qu'on ne sait pas exactement d'où elle vient, on ne sait pas exactement où elle va. Elle apparaît dans l'histoire, elle fait un récit, et elle fait un récit dans lequel on devine quasiment que Jérusalem, pour elle, est un gigantesque monastère. Parce que la manière dont elle parle du temps, la manière dont elle parle des gens, voilà, la ville est une ville, alors rêvée sans doute, parce qu'elle nous décrit des foules s'arrêtant de travailler, se mettant à prier. Bon, peut-être être quand même un peu plus circonspect. Mais Égérie est une des premières à décrire justement tout le rituel, toute la liturgie qui a lieu à Jérusalem.
Un mot sur son époque, donc la fin du IVe siècle, qui est une époque fondatrice pour l'Empire romain d'Orient qui devient chrétien.
Exactement. Il faut bien imaginer que pour les chrétiens, si la vie du Christ se déroule à Jérusalem, eh bien, il faut attendre justement ce IVe siècle pour que Jérusalem devienne véritablement un haut lieu. Alors on va avoir l'invention, c'est un mot qu'on utilise tout à fait noblement, hein, l'invention des reliques avec la mère de l'empereur Hélène. Constantin, Hélène, voilà, qui retrouve les lieux, qui est la première à monter le Golgotha, etc., etc. Et donc, du coup, à partir du IVe siècle, pour les chrétiens, Jérusalem devient un lieu avec des parcours, des choses très organisées.
Rappelez-nous peut-être cette rencontre d'Hélène, la mère de Constantin, l'impératrice Hélène, avec la Terre Sainte. Vous parlez d'invention. C'est elle, finalement, qui a créé Jérusalem du point de vue des chrétiens.
Alors, je sais qu'il y a on est à mi-chemin entre l'histoire et la légende, mais la légende est belle.
Dites-la nous.
Alors, Hélène aurait eu une vision en lui disant, écoute, il faut que tu te rendes là, et là, tu trouveras telle chose. Il faut que tu creuses ici, et tu verras telle chose, etc., etc. Alors, Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a aussi chez Hélène ou chez l'entourage d'Hélène le désir de dire il faut territorialiser le religieux? Hein, l'Empire va devenir chrétien, il faut maintenant qu'on ait des lieux, qu'on ait des sites qui soient clairement identifiés. Et du coup, Hélène va entreprendre des travaux pour dégager ce qui est aujourd'hui le Saint-Sépulcre. Et elle va trouver sur place... Alors, est-ce que c'est véritablement des reliques? Est-ce que c'est une invention de reliques? Ça, chacun aura sa propre opinion. Mais elle va retrouver les lieux et elle va retrouver les objets. Ce qui veut dire qu'à partir de ce moment-là, entre l'Empire et Jérusalem, il y a véritablement une espèce de couple à la fois politique et religieux qui se crée.
Sautons quelques siècles, au XIIe siècle, l'igoumène Daniel, alors qui vient de la région de Kiev, si je vois bien votre carte, donc qui serait attaché au christianisme orthodoxe russe. Il est assez sévère avec ce qu'il découvre. On le sent agacé, on le sent, en conflit avec lui-même peut-être par ce qu'il voit et qui le dérange. Il ne respecte pas tellement le culte des autres finalement.
Ah ben non, il n'y a qu'un seul culte pour Daniel, c'est l'orthodoxe. Et ce qui est intéressant dans ce témoignage, c'est que bien sûr il va au pèlerinage, bien sûr il est chrétien, mais... inévitablement, il y a une hiérarchie entre les confessions chrétiennes. Et la sienne est supérieure. Alors, par exemple, à un moment, ils allument, tous les représentants officiels, ça allume des lampes. Et bien évidemment, nous dit Daniel, la seule qui tient, la seule flamme qui tient, c'est la mienne, parce que Dieu bénit les orthodoxes.
Un point commun, c'est le Saint-Sépulcre à tous ces témoignages et puis l'objet même du pèlerinage. Décrivez-nous le Saint-Sépulcre. Quelle est cette spécificité, d'abord symbolique très forte, et puis le partage de l'espace?
Alors, le Saint-Sépulcre, c'est, pour ceux qui n'y sont pas allés, un endroit relativement petit. Hein. Et c'est un endroit relativement petit qui a la force d'abord de concilier tous les éléments de la passion du Christ. La pierre de l'onction, le Golgotha, le tombeau, etc. Tout est à l'intérieur de ça. Et puis, le Saint-Sépulcre a une autre particularité, c'est que toutes les confessions chrétiennes s'y retrouvent. Alors, pendant très longtemps, elles se sont disputées, hein, voire étripées. Et il faut attendre le XVIe siècle, l'arrivée des Ottomans à Jérusalem, pour qu'un firman, un texte officiel, si vous voulez, règle le problème. L'empereur ottoman va dire, voilà, tel endroit est pour tel groupe, tel endroit est pour tel groupe, etc., etc. Et si vous n'êtes pas content, vous partez. Et l'équilibre qui est créé fait que toutes les confessions chrétiennes s'en présentent et qu'on ne peut pas toucher à l'équilibre créé au XVIe siècle. C'est extrêmement, extrêmement compliqué. Alors, on cite quelquefois, comme ça, l'histoire d'une petite échelle qui a été posée, on ne sait pas par qui, contre un mur et que personne n'ose toucher. Donc, voilà, toujours le mur, la petite échelle sur le toit, parce que, eh bien, on ne peut pas toucher à l'équilibre.
Ce qui est assez fascinant aussi, c'est le partage des clés du Saint-Sépulcre.
Alors, les clés du Saint-Sépulcre sont aux mains de deux familles musulmanes qui faisaient payer l'entrée et les fidèles, pendant très longtemps, ils rentraient le soir, étaient enfermés et ils passaient la nuit. Alors, malgré cet espace figé, eh ben, il y a des modifications. Alors, par exemple, les catholiques ont fait rentrer un peu clandestinement un orgue. Et alors, il y a un phénomène tout à fait ahurissant, c'est vers 5 heures au moment de la messe. Alors, bien sûr, chaque confession chrétienne veut être la première. Donc, la messe aux 5 heures commence à 5 heures moins le quart chez certains. Et puis, à 5 heures, boum, il y a l'orgue catholique qui écrase tout. Mais du coup, ça fait que le bâtiment... et sur le plan purement architectural, quelquefois en difficulté, en particulier le sépulcre lui-même, parce que il y a des échafaudages, des choses comme ça, parce que toucher à ça et organiser ça est quelque chose d'extrêmement, extrêmement compliqué, toujours aujourd'hui. Hein. Il ne faut pas oublier que le régime de M. Poutine, par exemple, va investir à Jérusalem, que Jérusalem reste pour les pouvoirs politiques une superbe vitrine. Ou rappelez-vous, les ennuis subis par nos deux présidents de la République avec les autorités israéliennes, quand ils disent « mais ces lieux saints dépendent de la France, la police israélienne n'a pas à y rentrer et tout ». C'est-à-dire que le pèlerinage et le politique ici sont extrêmement, extrêmement mêlés. Et ils l'ont toujours été.
Du point de vue des chrétiens d'Orient et des communautés, si on parle de grandes familles, les communautés dominantes sont les Grecs, les Arméniens, Grecs au sens de l'orthodoxie grecque, oui. la douaire de Byzance, les Arméniens, les Franciscains peut-être pour la communauté latine, donc catholique, et vous avez mentionné d'autres confessions, je crois qu'il y a les Coptes aussi,
les
Abyssins sur le toit du Saint-Sépulcre.
Voilà.
Mais les grandes familles restent quand même les courants traditionnels.
Exactement. Alors, il ne faut pas oublier que, alors venu d'Europe, ça surprend toujours les Européens de se dire « oui, mais ce n'est pas les Européens qui sont là en priorité ». Bon, mais quand la ville de Jérusalem a été organisée par les Ottomans, une grande partie de la population de l'Empire Ottoman était orthodoxe. Donc, l'Empire Ottoman, logiquement, a donné une part importante là. Et puis, le renouveau du pèlerinage au XIXe siècle s'est fait avec le soutien des Russes, avec le soutien de l'Empire russe. Donc ça, ces deux choses font que les orthodoxes soient tout à fait présents. Avec cet équilibre, et comme vous le citez très bien, c'est qu'à un moment, des Abyssins sont arrivés en disant « nous, on veut notre part ». Ben oui, mais il n'y a plus de place.
Les Abyssins, c'est l'église d'Éthiopie.
D'Éthiopie, voilà. Mais il n'y a plus de place. Donc on a retrouvé un petit coin en haut sur le toit, voilà, de manière à ce que les communautés chrétiennes soient présentes.
Un mot maintenant sur ce don Louvent dont nous parlions en début d'émission. Un personnage assez étonnant parce que autant le témoignage des autres pèlerins est plutôt négatif, lui est très forme d'optimisme, une forme d'écuménisme déjà. On est en 1531. Je vous cite. « Mais il a découvert qu'il y a tant de manières d'honorer Dieu. Il a vu que d'autres pourront être sauvés, que tous peuvent prier ensemble pour s'élever. De manière particulièrement humaniste, il note. Chacun étant persuadé néanmoins que sa propre manière de faire est la bonne et la seule valable. Dieu, lui, sait. »
Exactement. Don Louvent est un personnage pour lequel j'ai, on le disait tout de suite, une certaine amitié, enfin, même s'il est mort il y a 5 siècles, parce que c'est un personnage qui part de sa Lorraine avec énormément d'a priori. De toutes les manières, il sait qu'il ne reviendra pas, les musulmans vont le tuer, c'est des chiens d'infidèles, dit-il, enfin c'est la catastrophe. Puis quand il arrive là, ben, il découvre quoi ? Ben, il découvre que c'est des humains, comme les autres, il l'accepte pleinement. Et à la fin de son voyage, il y a un moment qui fait frissonner parce que c'est tellement puissant. Il est en train de prier, il y a quelqu'un qui prie à côté de lui et il regarde, il dit « Ah mais c'est un musulman, mais il prie bien, mais on prie de la même manière, on est à genoux, etc. etc. » Peut-être qu'on prie le même Dieu, je ne sais pas, écrit-il, dit « Voilà, Dieu sait. » Et en quelques mois, Don Louvent s'est complètement ouvert au monde. Il s'est complètement ouvert au monde, il s'est complètement ouvert à la diversité. Alors, il ne va pas du tout changer ses opinions, il reviendra en Lorraine, il sera père abbé de son abbaye, donc un parcours qui reste un parcours très très tranquille. Mais voilà, cette ouverture. Et cette ouverture à l'autre passe aussi, et là c'est très amusant, par la nourriture. Comment voyager à Jérusalem, le ventre vide, c'est pas possible. Donc, vous imaginez un moine avec les grandes manches et tout. Donc, le matin, avant de partir, il fourre des poulets dans ses manches. Puis, il a les deux mains comme ça fermées, vous voyez, dans le bon moine et tout, et oppose, et grignote son poulet. Superbe, dit-il, parce que c'est du poulet cuit à l'huile, ce à quoi il n'était pas du tout habitué. Et Don Louvent est véritablement le symbole de ces pèlerins qui, à la fois, s'ouvrent, deviennent des gens qui comprennent que leur religion doit leur permettre de comprendre les autres, sans changer, et puis s'ouvrent aussi à ce qu'est l'humain en général. C'est un très très beau parcours, et pour espérer que tout le monde fasse le même.
Un mot pour finir, Philippe Martin, sur Chateaubriand. On ne peut pas l'éviter. Une distance par rapport à son sujet. On le sent spectateur.
Alors Chateaubriand, lui, ben il vient on est au début, début de l'époque contemporaine, fin de l'époque moderne, quoi. Chateaubriand, lui, il vient avec beaucoup beaucoup de nostalgie. Voilà. Et alors, ce qui est le moment crucial pour lui, c'est pas la découverte de l'autre, c'est le fait qu'on va le faire chevalier du Saint-Sépulcre. Et alors là, c'est l'apothéose, parce que pour lui, le pèlerinage de Jérusalem lui permet de retrouver les croisades, de retrouver l'âme française, de retrouver la tradition, et ça fait son bonheur. Alors, entre Don Louvent qui découvre l'autre, Chateaubriand qui retrouve ses limites et tous ses parcours, On voit que Jérusalem, c'est véritablement le lieu où chacun apporte ce qu'il veut et ressort quand même plus fort.
Je serai peut-être le dernier Français sorti de mon pays pour voyager en Terre Sainte avec les idées, le but, les sentiments d'un ancien pèlerin en 1806.
Voilà, c'est vraiment l'idée qu'on va retrouver les choses. Mais à côté de ces pèlerins chrétiens, il ne faut pas oublier non plus les pèlerins musulmans qui ont les mêmes désirs, les mêmes, voilà, ou les pèlerins juifs. Et chacun projette à l'intérieur de Jérusalem tout ce qui est le meilleur. Malheureusement, il se passe aussi quelquefois que c'est un peu le pire et que là, il y a des conflits et autres. Mais Jérusalem, c'est vraiment... Vous voyez, Moshe Dayan vient de prendre Jérusalem. C'est la guerre des six jours et tout. Il prend Jérusalem. Il réunit les autorités musulmanes sur l'esplanade des mosquées. Ils sont persuadés qu'ils vont y passer. Et pas du tout, leur dit-il. Il leur dit, eh ben voilà, on va organiser des choses, vous êtes chez vous, nous contrôlons la ville, mais vous êtes chez vous. Et juste avant de partir, il prend un mégaphone et il crie dans la ville, il crie, nous sommes venus pour que toutes les religions puissent exister. Alors qu'on a un nationaliste, on a quelqu'un qui est croyant, et il dit, mais la force de ma religion fait que si un musulman prie à côté de moi, je n'en suis pas diminué. C'est de belles leçons.
Philippe Martin, un immense merci pour être venu jusqu'à nous ce dimanche matin.
Merci.
Je rappelle le titre de votre ouvrage sur les chemins de Jérusalem, juifs, chrétiens et musulmans en pèlerinage vers la ville sainte aux éditions Talendier. Voilà. Je vous souhaite un bon dimanche. Je remercie François Connac pour la réalisation, Claire Poinsignon et Emmanuel Couturier pour la technique. Nous retrouvons maintenant le rendez-vous protestant. Soleil, bon dimanche.
Tout l'amour du monde. De...